Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie pour vous présenter Le Monde aujourd'hui en ce lundi 1er août 2022. Les titres que nous allons développer. Au Sénégal, l'opposition et le camp présidentiel revendiquent chacun la victoire au lendemain des législatives. En République démocratique du Congo, des manifestants anti-ONU dispersés par des tirs de sommation à Beni.
Des casques bleus ont tiré des balles pour dissuader les services du poste frontière, puis ont cassé les cadenas et forcé le passage.
Reprise des exportations de céréales ukrainiennes, marquée ce lundi par le départ d'un premier navire depuis Odessa. Nancy Pelosi en Asie, mais la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis entretient le flou autour d'une éventuelle escale à Taïwan. Et puis, à venir d'environ 10 minutes, vos deux rendez-vous habituels, la minute de l'économie et la chronique sportive. Au Sénégal, l'opposition affirme avoir obtenu une majorité confortable au Parlement peu après la revendication de la victoire par le camp présidentiel à l'issue des élections législatives de dimanche. Le point avec Nanit Talani.
En fin de soirée dimanche, Aminata Touré, tête de liste de la coalition présidentielle, a assuré avoir gagné 30 départements sur les 46 que compte le Sénégal et des circonscriptions à l'étranger, tout en reconnaissant la défaite à Dakar, la capitale. Ceci nous donne incontestablement une majorité à l'Assemblée nationale, a-t-elle déclaré. La principale coalition de l'opposition a réagi en affirmant « Nous avons suivi avec stupéfaction la sortie de Madame Mimi Touré qui se présente en porte-parole du président Macky Sall qui cherche encore une fois à confisquer les suffrages des Sénégalais qui viennent de donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale, à l'intercoalition Yewi Walou. » La coalition appelle tous les Sénégalais à rester debout pour la sécurisation de la victoire du peuple. Ces élections à un tour visent à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement monocaméral largement dominé par le camp présidentiel. La commission électorale a jusqu'à vendredi pour publier les résultats.
Ce terrible drame de la route en Côte d'Ivoire, au moins 17 personnes ont été tuées et 2 grièvement blessées dans un accident près d'Abidjan, lequel a impliqué un camion de marchandises et un minibus. Le général Issa Sako, commandant des sapeurs-pompiers, a appelé à la prudence en cette période de saison des pluies et de grandes vacances dans le pays. Une tragédie similaire a eu lieu l'année dernière. La collision entre un autocar et un minibus au nord d'Abidjan avait fait 25 morts et 31 blessés. Les accidents de la route sont très nombreux et le plus souvent meurtriers en Côte d'Ivoire, où beaucoup de véhicules sont mal entretenus et de nombreuses routes en mauvais état. La tension n'est pas retombée entre manifestants et casques bleus en République démocratique du Congo. La police et l'armée congolaise ont usé de tirs de sommation aujourd'hui pour disperser des protestataires qui s'approchaient d'une base de la MONUSCO au lendemain de la mort par balle de 2 Congolais après des tirs attribués à des éléments de la mission onusienne. Le point avec Abdourahmane Dia.
2 colonnes de dizaines de manifestants anti-MONUSCO ont été dispersées par les forces de l'ordre dans la ville de Beni. La police a installé des tentes et érigé des périmètres de sécurité devant des installations de la MONUSCO dans cette ville de l'est de la RDC. Les casques bleus ont aussi renforcé les mesures de sécurisation de leurs installations avec des véhicules blindés et des chars de combat, selon un correspondant de l'AFP. Un membre du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, a promis que les manifestations se poursuivraient jusqu'au départ effectif de la MONUSCO, présente en RDC depuis 1999. Hier dimanche, des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu au poste frontière de Kassindi pour entrer en territoire congolais. L'incident a coûté la vie à 2 personnes et fait 15 blessés. L'ONU et le gouvernement de Kinshasa ont condamné cet acte. Par ailleurs, la MONUSCO et le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, ont rendu hommage ce lundi à Goma à 5 casques bleus tués en une semaine dans des manifestations visant la force onusienne. Aucune autorité congolaise n'y a pris part.
Le bilan des inondations survenues pendant le week-end dans la ville de Mbale en Ouganda est monté à 22 morts et 10 blessés graves. Deux rivières sont sorties de leur lit après des pluies diluviennes qui ont provoqué des coulées de boue, causant des dégâts considérables et obligeant des centaines d'habitants à quitter leur foyer. Des équipes communes de la police, de l'armée et de la Croix-Rouge continuent à chercher les nombreuses personnes encore portées disparues. Ce lundi, le Premier ministre Robinah Nabanja, qui s'est rendu sur les lieux, a suggéré que la catastrophe aurait pu être évitée si les gens n'avaient pas empiété sur les berges des rivières. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, au moins deux manifestants ont été tués par balle lors d'un mouvement de protestation tenu aujourd'hui contre la vie chère. Les forces de l'ordre sont accusées d'avoir ouvert le feu en direction des protestataires. Le service d'enquête indépendant de la police indique qu'une investigation est en cours. La mobilisation a eu lieu dans le township de Tembisa où des habitants en colère, notamment contre les prix de l'électricité, ont bloqué des routes avec des pneus en flammes et ont incendié un bâtiment public. En Libye, au moins 6 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne qui était en route vers une station d'essence. Le drame s'est produit à Ben Baya, une petite localité du sud-ouest libyen, lorsque des dizaines d'habitants se sont précipités vers le camion pour remplir des bidons d'essence, ce qui a provoqué une bousculade alors que le véhicule avait déjà pris feu. Les causes de l'incendie et de l'explosion ne sont pas claires, mais des voitures en stationnement ont également pris feu. Cette partie de la Libye, pays producteur de pétrole, est confrontée à de graves pénuries de carburant.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine a repris ses exportations de céréales avec le départ d'un bateau chargé de 26 000 tonnes de maïs du port d'Odessa aujourd'hui, conformément à un accord international. Des céréales sont déjà parties du pays depuis le début de la guerre à partir du port de Berdiansk, occupé par les Russes. Les détails avec Nathalie Barge.
Selon le ministère turc de la Défense, le bateau fera escale à Istanbul le 2 août, où des inspections seront menées avant qu'il continue sa route vers le port de Tripoli au Liban. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a indiqué que 16 autres bateaux chargés de céréales attendent également leur tour pour quitter le port d'Odessa, qui concentrait 60% de l'activité portuaire du pays avant la guerre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué le départ du Razoni ainsi que l'Union européenne qui a réclamé la mise en œuvre totale de l'accord. Moscou a jugé très positif le départ du navire. Espérons que les accords seront appliqués par toutes les parties, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L'accord signé le 22 juillet à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine prévoit l'instauration de couloirs sécurisés afin de permettre la circulation en mer Noire de navires marchands et l'exportation de près de 25 millions de tonnes de céréales. Un accord similaire signé simultanément garantit à Moscou l'exportation de ses produits agricoles et engrais.
Je vous le disais en titre, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a entamé sa tournée asiatique avec une première étape à Singapour aujourd'hui. Nancy Pelosi n'a toutefois rien dit sur une éventuelle escale à Taïwan, un arrêt qui pourrait envenimer les relations déjà tendues entre Pékin et Washington. Davantage avec Eric Manirakidza.
Nancy Pelosi a annoncé dimanche conduire une délégation du Congrès dans la région Indo-Pacifique pour réaffirmer l'engagement inébranlable de l'Amérique envers ses alliés et amis dans la région. À Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon, nous tiendrons des réunions de haut niveau pour discuter de la manière dont nous pouvons promouvoir nos valeurs et nos intérêts communs, a-t-elle déclaré sans mentionner Taïwan dans son itinéraire. Depuis des semaines, les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont accrues sur une éventuelle visite de Mme Pelosi à l'île de Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire. Des délégations de responsables américains se rendent fréquemment à Taïwan pour exprimer leur soutien, mais une visite de la démocrate Pelosi, un des plus hauts responsables de l'État américain, serait sans précédent depuis celle de son prédécesseur républicain Newt Gingrich en 1997. Les États-Unis pratiquent à l'égard de Taïwan une diplomatie dite d'ambiguïté stratégique. Elle consiste à ne reconnaître qu'un seul gouvernement chinois, celui de Pékin, tout en continuant à apporter un soutien décisif à Taïwan. Washington s'abstient toutefois de dire si une intervention militaire est envisageable si la Chine venait à envahir Taïwan.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
Au Mali, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alassane Sanou, a commencé une séance d'arbitrage politique avec les ministres sectoriels, les institutions et des autorités indépendantes. Ces consultations, qui prendront fin demain mardi, ont pour but d'affiner la qualité de la programmation budgétaire et d'accroître l'efficacité des dépenses publiques. Ces rencontres permettent d'obtenir un consensus sur les allocations budgétaires pour 2023. Le Malawi réclame plus de 300 milliards de dollars à la société américaine Columbia Gem House pour des recettes fiscales impayées sur des pierres précieuses extraites de son sol et exportées vers les États-Unis depuis 2008. Columbia est accusée d'avoir payé seulement environ 600 dollars d'impôts sur les 24 milliards de dollars de revenus estimés. Le Malawi se réserve le droit d'engager des poursuites pénales contre les sociétés et toute personne ayant participé à l'évasion fiscale et à la facturation frauduleuse des exportations. Pour terminer, la production pétrolière en Libye a atteint 1,2 million de barils par jour, soit la moyenne quotidienne avant le blocus pétrolier d'avril à juillet. La reprise est tributaire de la levée de l'embargo sur la production et l'exportation mi-juillet par les groupes armés. Après un arrangement entre Abdelhamid Beba et le maréchal Khalifa Haftar, les chefs des deux gouvernements qui se disputent le pouvoir.
Et maintenant les sports avec aux commandes Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
On commence par du football. Ce week-end, s'est joué le premier tour des éliminatoires du CHAN 2023.
Oui, dans la zone UFOA, la Guinée-Bissau a surpris la Gambie. Les Djourtous ont refait leur retard 1-0 du match aller pour jouer la Mauritanie au tour suivant. Ça passe aussi pour la Sierra Leone tombeuse du Cap Vert. Elle fera face au Mali fin août. Idem pour le Sénégal qui va croiser la Guinée après avoir éliminé le Libéria. Ça cale en revanche pour le Bénin battu deux fois par le Ghana, 3-0 à Cape Coast et 1-0 à Cotonou. Les Black Stars affronteront au tour décisif les Super Eagles du Nigeria. À noter que les matchs allés de ce second tour vont se disputer entre le 26 et le 28 août. Le retour une semaine plus tard.
Pas de mondial 2022 pour Tariq Tissoudali.
Victime d'une rupture des ligaments croisés au genou droit, l'international marocain sera absent pour minimum 6 mois. Tariq Tissoudali manquera donc le mondial 2022 au Qatar. L'annonce a été faite par son club belge, la Gantoise. Le joueur de 29 ans s'est blessé lors de la rencontre du championnat de Belgique face à Saint-Trente, 1-1 samedi. Il a dû quitter le jeu à la demi-heure. Tariq Tissoudali a participé à la CAN 2022 sous les ordres du sélectionneur Vahid Halilhodžić, celui qui compte 7 sélections avec les Lions de l'Atlas. Avait été double buteur en mars 2022 lors des barrages pour le Mondial 2022 face à la RDC.
Première victoire de DC United avec Wayne Rooney en MLS.
2 buts marqués dans les arrêts de jeu par Chris Durkin et Taxiarchis Fultas ont permis à DC United de battre Orlando 2-1 et de donner à Wayne Rooney sa première victoire comme entraîneur en MLS. L'ancien international anglais a été embauché le 12 juillet. Mais un retard dans l'obtention de son visa a retardé ses débuts sur le banc. La nouvelle équipe de Rooney reste à la dernière place de la conférence Est, à 8 points de la dernière place du barragiste pour les playoffs de la MLS Cup.
Toujours ici aux États-Unis, Bill Russell est mort hier à 88 ans.
Oui, l'ancienne star des Boston Celtics, défenseur invertébré des droits civiques, a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Rachel est devenue une superstar du basket dans les années 1950-1960, non pas avec des jeux de but, mais grâce à des rebonds dominants et un jeu défensif intense qui a remodelé la balle au panier. Il a été la pièce maîtresse de la dynastie des Boston Celtics, qui a remporté 11 championnats en 13 ans, de 1956 à 1960, inscrit au Panthéon du Temple de la Renommée, 5 fois joueur le plus utile et 12 fois All-Star. Il a été élu en 1980 le plus grand joueur de l'histoire de la NBA par les écrivains de basketball. Nous reviendrons sur l'apport de Bill Rachel dans le basket et la lutte pour les droits civiques dans la partie magazine de cette édition.
Merci Yacouba, à très bientôt.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Mille fois merci de votre fidélité à VOA Afrique. En République démocratique du Congo, des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu avant d'ouvrir la barrière et traverser la frontière congolaise au poste frontière de Kasindi à Beni hier. Deux personnes ont été tuées et 15 blessées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit outré. La MONUSCO a traité cette fusillade d'incident grave, inqualifiable et irresponsable, alors que le gouvernement congolais a condamné l'incident et a appelé la population au calme. Le drame a provoqué des manifestations dans le Nord Kivu. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
Selon les témoignages sur place, les soldats de l'ONU venaient de l'Ouganda et voulaient franchir la frontière avec la République démocratique du Congo. Les services gouvernementaux congolais travaillant à cette barrière ont bloqué le passage des casques bleus. Ces derniers ont tiré des balles pour dissuader les services du poste frontière, puis ont cassé les cadenas et forcé le passage. Joël Kataoussa, vice-président de la société civile de Kasindi.
Des 14 personnes blessées et des morts. Ils sont blessés par balle. La MONUSCO a tiré à bout portant sur la paisible population. Et la population a essayé d'être aux aguets. Même les services de l'État n'ont pas ouvert les deux barrières, la barrière de la DGM et la barrière. Et la MONUSCO a cassé par balle tous les cadenas de ces deux barrières.
La population, qui était déjà en colère et contre la présence onusienne, considère qu'il s'agit d'un sabotage et d'une violation grave de la souveraineté du territoire congolais. Elle demande au gouvernement congolais de mettre fin à la mission de l'ONU en RDC. Pour sa part, Maître Eliva Humawa dénonce un comportement inacceptable au sein des casques bleus censés protéger la population. Il demande aux autorités congolaises et onusiennes de prendre des décisions qui s'imposent pour punir cet acte.
Celui qui combat la criminalité ne doit pas être criminel. Celui qui combat pour la justice doit être lui-même juste. Ce que ces petites brebis galeuses cachées au sein de la force onusienne viennent de faire, ça s'appelle un meurtre. Parce que ces gens sont censés dire protéger la population. Comment on peut nous envoyer une force hébergeant à son sein des gens qui nous tuent? Vous devez prendre des décisions qui s'imposent.
C'est lundi, au lendemain de ces graves incidents, des manifestations ont repris à Beni pour demander le départ immédiat des forces onusienne. Dans un communiqué, la représentante du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est dite profondément choquée et consternée par cet incident. Elle a rassuré que les auteurs de cette fusillade sont déjà aux arrêts et que les enquêtes ont d'ores et déjà commencé en collaboration avec les autorités congolaises. Par ailleurs, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, était à Goma ce lundi pour rendre hommage, avec l'absence remarquée des autorités congolaises, à 5 casques bleus tués la semaine dernière dans des manifestations contre la présence onusienne dans les pays. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Bénin, 30 prisonniers politiques ont été libérés mercredi dernier après avoir été détenus pendant environ un an. Leur libération est vue par certains comme découlant de négociations menées par les anciens présidents Nicéphore Soglo et Yahi Boni, mais aussi de la tournée dans le pays du chef de l'État français Emmanuel Macron. Les Béninois s'en réjouissent et demandent à leur président Patrice Talon d'aller plus loin en libérant les leaders de l'opposition comme Rekia Madougou et Joël Aïvo. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Pour la plupart, ils ont été interpellés au lendemain de la présidentielle de 2021, accusés entre autres d'avoir tenté de déstabiliser le pouvoir. Pour certains Béninois, leur remise en liberté ne pouvait mieux tomber.
Moi, je suis vraiment content et je les remercie.
La liberté n'a pas de prix. Dans cette famille, j'imagine la joie.
C'est une bonne chose. Un dirigeant doit écouter son peuple. Nous sommes contents que le président, après que le peuple a jugé que c'est pas bon et a demandé que ceux qui sont arrêtés à cause des élections politiques soient libérés, il les a libérés.
Pour d'autres, les jeunes doivent retenir la leçon et cesser d'être des instruments dont se servent les politiciens.
Il faudrait que le jeune Béninois accepte que la chose de l'État ne peut pas permettre le désordre dans un pays. Libéré, oui. Un temps passé dans les verrous, c'est un temps aussi d'apprentissage. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont appris? Si nous estimons que nos droits ont été violés, il faut écrire et saisir les autorités compétentes à travers les différentes cours qui existent.
Il va falloir qu'on éclaircisse un peu, n'est-ce pas, cette situation-là. Quand on est jeune, on n'est pas censé, n'est-ce pas, de suivre un mot d'ordre d'un homme politique. On est doté d'intelligence et on ne fait pas de n'importe quoi dans un état de droit.
Dans le rang de l'opposition, le geste est apprécié, même si on considère qu'il reste encore des opposants et pas des moindres derrière les barreaux. Judika El Rouanou est membre des forces courries pour un Bénin émergent, FCBE.
Et au parti FCBE, 30, c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore tout. Il est encore derrière les barreaux et nous espérons que le chef de l'État qui a entrepris devrait pour la paix et la justice sera clairvoyante dans ces dossiers et afin que nos frères sortent de derrière les barreaux.
Pour le premier vice-président du parti Les démocrates n'ont régné à Tchadé. Cette décision est la réparation d'une injustice et contribue à la décrispation du climat sociopolitique.
Je crois que leur libération, ça participe à la réparation de l'injustice. Et même s'ils ont fait déjà pour certains un an et demi en prison, je crois que leur libération contribue au pardon.
Cette vague de libération avait été évoquée lors de la conférence de presse conjointe donnée par le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron. Le président béninois avait pourtant dit qu'au Bénin, il n'y avait pas de détenus politiques.
Je conviens avec vous que c'est des gens qui ont agi dans le champ politique, mais les actes qui ont accompagné leurs revendications, si ce sont des actes délictuels criminels, les actes doivent être punis. C'est ce qui s'est passé. Libérer des gens qui ont commis des crimes ne relève pas pour moi de l'ouverture. Pour moi, il n'y a pas de revendication qui tienne la route, qui vaille et qui concerne des gens qui ont commis des délits, des crimes. Mais au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a ordonné la libération de Basile Atangana Kuna, poursuivi pour détournement de deniers publics, alors qu'il était directeur général de la Camwater, la société en charge du service public de l'eau potable. Il est libre depuis vendredi dernier, après avoir restitué le corps du délit. Mais c'est une remise en liberté qui fait polémique. De Yaoundé, le point avec notre correspondant Emmanuel Julenta.
Hilaire Kamga, juriste et membre de la société civile, entrevoit l'influence des réseaux étrangers derrière l'arrêt des poursuites judiciaires contre l'ancien directeur général de la Camwater, Basile Atangana Kuna. Il était accusé d'avoir mis sur pied une société écran pour sous-traiter frauduleusement un contrat commercial entre la Camwater et une société belge.
L'ordre de le libérer coïncide avec l'arrivée de M. Macron au Cameroun. Cela subodore simplement le fait que les réseaux plus puissants ont dû conditionner un certain nombre d'éléments par rapport à la visite de M. Macron, qui était quand même très attendu par Yaoundé, à la libération de M. Kuna, qui manifestement n'a pas une seule nationalité.
Faux, rétorque Maître Aïssi Atangana, avocat de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie.
La décision, elle est conforme, n'est-ce pas, aux dispositions de la loi. Le législateur a voulu qu'il en soit ainsi, que lorsqu'on a restitué, on peut bénéficier de l'arrêt de poursuite.
Autrement dit, lorsqu'on prend ce qui ne nous appartient pas et qu'on le rende par la suite, on ne peut être poursuivi. Le ministre de la Justice a donc ordonné le 27 juillet l'arrêt de poursuite judiciaire contre Basil Atanda Kuna sur instruction du président de la République, selon une correspondance qui a fuité sur les réseaux sociaux. Francis Simeux, expert en gouvernance, évoque deux éléments qui portent à confusion dans cette affaire.
Le fait que la justice doit se soumettre à une autorisation écrite du ministre de la Justice est de deux pour le cas de M. Atanda Kuna. Il avait cherché à se soustraire dans le cadre du droit pénal. C'est même une circonstance qui rend la procédure plus complexe.
Le 23 avril dernier, M. Basil Atanda Kuna a reversé le corps du délit au trésor public, soit 1 milliard 265 millions de francs CFA. Pour ce jeune chef d'entreprise, la bonne foi de l'ancien ministre est à saluer.
Nous ne gagnons pas à ce que ces hommes et ces femmes, ce qu'on appelle les voleurs à col blanc, remplissent nos prisons pendant que l'État n'entre pas en retour avec cet argent.
Basil Atanda Kuna, devenu entre-temps ministre de l'eau et de l'énergie, entre 2009 et 2018, avait tenté de fuir le Cameroun au cours de cette année. Arrêté au Nigeria, il a été placé en détention dans le cadre de l'opération dite Opervier pour lutter contre la corruption. Pour Hilaire Kamga, cette opération est bafouée dans la pratique au fil des années.
La libération de M. Edou Atanda Kuna édulcore une opération qui elle-même était déjà édulcorée au niveau conceptuel. Qu'il n'y a rien à attendre de l'opération Opervier, qu'on l'arrête, qu'on le garde en prison, que ceux dont le rapport de force dans le débat dans les réseaux ou les mafias est en position de faiblesse.
Plusieurs hauts dignitaires du pays sont en prison dans le cadre de l'opération Épervier. Certains sont passés par des procès interminables, d'autres sont morts en détention. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Cette triste nouvelle ici aux États-Unis. L'ancienne vedette de basketball, Bill Russell, est mort hier à 88 ans. Bill Russell est devenu une superstar du basket dans les années 1950-1960, non pas avec des jeux de but, mais grâce à des rebonds dominants et un jeu défensif intense qui a remodelé la balle au panier. Il a été la pièce maîtresse de la dynastie des Boston Celtics, qui a remporté 11 championnats en 13 ans, de 1956 à 1969. En dehors du terrain, il était un défenseur des droits civiques. Il était au premier rang à Washington en 1963 lorsque le docteur Martin Luther King a prononcé son discours « I have a dream ». Pour en savoir davantage sur Bill Russell, cette ancienne gloire du basket et des droits civiques, Yacouba Ouedraogo a joint, ici à Washington, l'analyste René Lake.
Sur le terrain, c'était un défenseur d'exception, excellent en ce qu'on appelle one-on-one defense, donc en défense directe et également dans la protection du panier. Donc, il était effectivement la grande star des années 50 et 60, mais également le plus important, je crois, en ce qui le concerne, y compris sur le terrain, c'était ses qualités de leader. C'était vraiment un véritable leader. Il organisait et lançait l'attaque à partir de ses qualités défensives. Donc c'était un véritable meneur de jeu, même s'il n'était pas, bien entendu, dans une position technique de meneur de jeu.
L'autre facette de Bill Russell qu'on retient, c'est cet homme, aux côtés de Martin Luther King en 1963, qui prononçait son fameux discours « I have a dream ». Quel a été le rôle de Bill Russell justement à cette époque-là dans la lutte pour les droits civiques?
Il a joué un rôle extrêmement important. D'abord parce qu'il a été lui-même victime des horreurs et des affres du racisme, y compris dans son club de Boston. Il a eu des tas de problèmes, il a été insulté, il était maltraité par les supporters, mais y compris aussi des attitudes haineuses et insultantes de la part de ses coéquipiers blancs. Quand il était en voyage avec son équipe, il arrivait souvent d'avoir des problèmes dans les restaurants où on ne voulait pas le servir et où il ne pouvait pas non plus pêcher dans certains hôtels. où les autres blancs de son équipe étaient acceptés. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de tout cela, comme tous les Noirs à l'époque, mais ça l'a fortifié, et comme vous l'avez dit, il s'est beaucoup engagé dans le mouvement des droits civiques. Il a été proche de le boxeur Mohamed Ali, et quand celui-ci a eu des problèmes, il a été vraiment un membre actif du Black Power Movement.
On parle souvent de l'engagement des sportifs, notamment des basketteurs, dans la lutte pour les droits civiques. Lorsque vous le comparez à un garçon, par exemple, comme la légende du basket, Michael Jordan, les gens trouvent que Bill Russell était meilleur dans la défense, bien sûr, des droits civiques.
Michael Jordan était un compétiteur hors pair, peut-être le plus grand compétiteur que le sport n'ait jamais vu, mais ce n'était pas du tout quelqu'un d'engagé, c'était quelqu'un qui était sur des positions purement personnelles, égocentriques, diront certains. It was all about him.
L'analyste René Leek joint ici à Washington. Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagneau. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. L'information continue sur les bandes FM de VOA Afrique, de même que sur VOA.